Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Le 21 mai 2001 était promulguée en France une loi fondamentale, mémorielle, qui reconnaissait la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. 2 ans auparavant, ce projet était porté avec flamme et fougue par la députée de l'Assemblée nationale française, première circonscription de Guyane, la future garde des Sceaux et ministre de la Justice, Christiane Taubira, archive.
Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi. Parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français.
Une loi qui va secouer le monde noir, disait à l'époque Aimé Césaire, lui qui depuis toujours portait haut et fort les valeurs de la justice, de la fraternité, de la solidarité. C'est donc à la lumière de Césaire, de son combat politique et de son œuvre poétique que nous célébrons ce vendredi jour pour jour les 20 ans de cette loi, d'autant que nous fêtons aussi le 10e anniversaire de l'entrée au Panthéon d'Aimé Césaire en 2011. Une double actualité et deux bonnes raisons de réentendre la voix de celui qui se définissait comme un nègre rebelle et qui, tout en étant universel, a été toute son existence viscéralement attaché à son île natale, la Martinique, où il est né en 1913 et décédé en 2008, après avoir été maire de Fort-de-France pendant 56 ans et publié plus d'une vingtaine de livres, poèmes, théâtres, essais et biographies, dont l'un des titres les plus célèbres est sans doute « Cahier d'un retour au pays natal ». Bonjour Marie-Josée Ali.
Bonjour Catherine.
Vous avez eu la chance de connaître Aimé Césaire, que vous avez suivi comme journaliste entre 1983 et 2007, des conversations rassemblées dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Hervé Chopin sous le titre « Entretien avec Aimé Césaire ». Un homme dont vous dites qu'il est celui que vous avez suivi, poursuivi avec le plus d'opiniâtreté, de curiosité et d'appétit. Pourquoi tant de ferveur de votre part?
Mais d'abord par esprit de subversion au départ. Et Césaire avait été tellement interdit d'antenne pendant des années et des années que quand je suis arrivée en Martinique et que j'ai commencé à travailler, la première chose que j'ai eu envie de faire après mes diplômes, je me suis dit mais il faut que j'interviewe cet homme. Cet homme dont on parlait dans ma famille, cet homme dont on parlait en Martinique, le poète dont j'avais entendu parler par des étudiants africains qui étaient dans la même école que moi à Paris, le dramaturge, et puis le politique tellement controversé en Martinique. Je me suis dit, mais on a un trésor Bon, il y a rien. Il n'y a pas d'interview de lui. Il était vraiment interdit d'antenne. C'était implicite. Ce n'était pas dit, c'était pas écrit, c'était pas posé. Mais on menait ces actions-là avec beaucoup d'efficacité. Donc, premièrement, c'était de la subversion, j'avoue. J'étais toute jeune journaliste, c'était de la subversion. Ensuite, c'était de la curiosité, parce que je me dis, voilà, un homme parti de ce petit caillou qui est notre pays et qui a inventé l'idée de négritude avec Senghor, un Africain. L'idée de négritude, d'abord, ça me paraissait une idée très, très vaste, extrêmement porteuse, pour moi et pour les miens et pour les autres noirs de la planète, mais je n'en percevais pas bien le contour. J'avais vraiment envie qu'il me l'explique et qu'il me le réexplique. Et puis, il y avait un lien entre cet homme et le peuple martiniquais, la population des quartiers, la population, celle qui marche, qui travaille, qui peine, qui transpire, qui essaie de s'en sortir, qui survit d'une certaine façon. Et je trouvais que c'était presque magique et j'avais envie, voilà. Étant journaliste, j'avais envie de ça.
On découvre que c'est un homme, Césaire, difficile d'accès. Et d'ailleurs, votre première interview de lui en 1983, n'est-ce pas, semble avoir été très compliquée à décrocher. Il a même fallu que vous traversiez l'océan, c'est cela ? Que vous alliez le retrouver, non pas à Fort-de-France, oui, où vous étiez tous les deux, mais que vous alliez à Paris, à l'Assemblée nationale, c'est ça ?
C'était un vrai hold-up. Moi, je pense qu'il m'avait, lors d'une, non pas une interview, mais d'une actualité politique, je suis allée vers lui en lui disant, bon, je souhaiterais vraiment faire un documentaire sur vous, j'aimerais vraiment aller au fond des choses. Avec vous, c'est pas possible que ça... Je sais que vous n'aimez ni la radio ni la télé, mais quand même, c'est pas possible de ne pas le faire et tout. Bon, il m'a commencé par me dire, mais donc votre père fait ci, votre mère était ça, votre grand-mère est ça, je connais Jacha, ben, il m'a sorti tout mon arbre généalogique, tout ce qu'il en savait, c'était sa particularité. Dès qu'il rencontrait quelqu'un, il essayait de vous remettre dans la toile martiniquaise pour mieux comprendre qui vous étiez. Bon, une fois ce passage obligé, il m'a dit, bon, ben oui, d'accord, mais on va faire ça à Paris, je serai plus libre. Et je me suis dit, bon, là, il m'embrouille. Il veut absolument pas le faire. Et donc, il pense que la distance et le fait de traverser la mer, parce que c'est pas évident, quoi. Une équipe de tournage qui part à Paris et filmer Césaire, qui est maire à Fort-de-France, c'est quand même, il faut pouvoir le vendre, ça. Et j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Et je me suis dit, il n'y a pas de problème, j'ai pas de rendez-vous, il m'a pas donné son accord vraiment, il m'a juste dit, oui, on va le faire à Paris, on se voit à Paris, et on en discute.
Mais c'était même pas sûr encore.
C'était même pas sûr encore. Bon, donc, voilà, je me suis beaucoup agitée auprès de la hiérarchie pour dire que, bon, on était en 83. Mitterrand était au pouvoir, on savait qu'il était en train de préparer plus ou moins un moratoire sur la question du statut d'autonomie ou d'indépendance parce qu'il pensait qu'il avait des amis qui étaient à Paris et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait commencer à travailler. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal, mais finalement, je crois que, je sais pas comment j'y suis arrivée, mais en tout cas, on s'est retrouvés dans un avion avec le matos et tout ça. Et quand on est arrivé à Paris et qu'on a pris, j'ai pris rendez-vous avec lui parce que j'ai eu son assistante ou assistant, je ne me souviens plus, qui m'a dit, ben, comme ça, vous le verrez à l'Assemblée nationale, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Donc on a tout fait en douce, puis on est arrivé avec tout le matos.
C'est un épisode qui montre à quel point d'abord c'était un homme plutôt rusé, Césaire, qui ne se laissait pas laisser ouais, approcher facilement. Est-ce que pour autant vous diriez qu'il était dur à cette époque ?
Ah, pas du tout.
Nerveux ?
Pas du tout. Il était nerveux, mais il a toujours été un homme facétieux. Ça veut dire qu'il avait toujours l'humour au bout de la voix, en fait, hein, beaucoup au bout du geste. Il avait beaucoup d'humour au bout du geste. Pas tellement dans sa plume, parce que sa plume était incandescente, mais il avait pas mal de... Donc, il était assez facétieux. Donc, moi, je pense qu'il a vécu ça comme un pari, et puis pour tester peut-être aussi l'envie réelle que j'avais de surmonter toutes les difficultés que nous avions, parce que nous étions une équipe, pour pouvoir accéder à lui et vraiment lui faire un portrait, et pas lui tailler une veste, quoi. En fait, c'était ça aussi. Il était très méfiant, parce qu'il n'avait pas eu l'habitude d'être sollicité du tout. Donc, il se demandait, mais c'est quoi exactement ? De quoi ? Et donc, voilà, c'est comme ça que...
Que commence
une
cette relation
qui a
au long
duré
cours.
Au long cours, voilà.
Donc vous le retrouvez à la bibliothèque de l'Assemblée nationale à Paris, assemblée où quelques années plus tard, donc Christiane Taubira siégera à son tour, une femme qu'il aimait beaucoup. Vous le citez d'ailleurs à plusieurs reprises.
Ah oui, il avait une relation avec Christiane qui était vraiment très particulière. Il lui ouvrait les bras, la serrait dans ses bras et
il la recevait sans rendez-vous.
Sans rendez-vous. Enfin bon, on était comme ça, peut-être deux, trois personnes qu'il arrivait à recevoir sans rendez-vous. Il était toujours content.
De voir cette petite Guyanaise, comme il disait. En tout cas, cette admiration était totalement réciproque, comme en témoigne cet extrait de Littérature sans frontières où je la recevais à ce micro en 2018. Christiane Taubira.
Aimé Césaire, d'abord, c'est une langue absolument incandescente, une langue éblouissante, une langue indéfinissable, une langue qui vous surprend constamment. Et derrière cette langue qui vous surprend constamment, il y a le courage à la fois vigoureux, presque virulent même, et en même temps apaisé, du rapport de domination de la colonisation qu'il a connu quand même, hein, puisque la Martinique, comme la Guyane et les deux autres, Guadeloupe et Réunion, sont devenus des départements français en 1946. Donc Aimé Césaire a connu la colonie. Il a vu, d'ailleurs, il a été rapporteur de la loi de départementalisation en 1946, puisqu'il était également maire. Député, voilà, maire de Fort-de-France pendant 50 ans.
Oui.
Et député. Mais bon, voilà, donc il y a cette virulence-là, parce que c'est un système d'une extrême violence, et en même temps c'est apaisé, parce que c'est un homme qui a trouvé son chemin, qui a trouvé sa conscience de lui-même, et qui, grâce à la langue, dit toute la brutalité du monde, et dit en même temps toute la beauté de sa tranquillité, son assurance, en lui, sa confiance en lui-même, son assurance d'être, tout simplement.
Aimé Césaire, donc raconté par Christiane Taubira, qui l'a bien connu et qui salue d'ailleurs en lui autant l'homme politique que l'auteur d'une œuvre poétique majeure. Et puis surtout, vous commenciez de l'évoquer tout à l'heure, l'homme qui, avec Senghor, son ami, son frère du Sénégal, mais aussi avec Damas de Guyane et René Depestre d'Haïti, avait forgé ce terme de négritude. Alors ça, c'est un concept politique et littéraire majeur. Mais est-ce que néanmoins, au fur et à mesure des années passant, c'est pas un concept qui lui avait un peu échappé? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-José?
Je crois que toute idée comme celle-là et tout concept est fait pour échapper à son auteur. Sans quoi, ça veut dire que ça vit pas. Et la seule chose qu'il ne voulait pas, c'est que ça parte dans la mauvaise direction. Parce que pour lui, la négritude n'a jamais été un enfermement. La négritude a toujours été un point de départ. Et après, chacun trouve son chemin et le trace. Faut pas oublier que ce cri de négritude a été poussé à un moment où toute l'Afrique était colonisée par les pays européens, que l'Afrique du Sud vivait l'apartheid, que les États-Unis vivaient la ségrégation. En gros, il n'y avait pas un noir debout sur Terre. En tout cas, c'était une manière de dire, mais attendez, on est tous solidaires les uns des autres d'abord. Il n'y a rien de ce qui se passe, comme il m'a dit, à Conakry ou à Harlem ou à Nome est étranger. D'abord, on a cette solidarité à mettre en place et ensuite, on a notre parole à donner au monde. Voilà, c'était ça. L'idée, c'était comment... Je pense que sans la négritude, il n'y aurait pas eu le Tout le monde d'Edouard Glissant. Sans la négritude, il n'y aurait pas eu toutes ces réflexions qui permettent de faire avancer le monde. C'est pour lui, c'était un point de départ pour aller vers l'universel. C'était très important. Et je ne l'ai compris que quand je l'ai rencontré et qu'il me l'a expliqué, comme je le rapporte dans cet ouvrage.
Oui, effectivement, page 30 de votre recueil, Marie-José Ali, vous retranscrivez exactement le verbatim où il dit, voilà, en quelques mots, la négritude, c'était pour nous avant tout remonter aux sources, comprendre nous-mêmes, l'affirmation d'une identité. Un peu plus loin, c'est l'affirmation d'une fidélité. Autrement dit, rien de ce qui se passe à Harlem, rien de ce qui se passe à Dakar, rien de ce qui se passe à Conakry, rien de ce qui se passe au Congo ne m'est étranger. Voilà, grosso modo, les présupposés de ce que nous avons appelé la négritude. Fermez les guillemets. C'est ce qu'il vous disait lors d'un entretien. Une négritude aussi qui a nourri son œuvre littéraire. Et je vous propose justement d'aborder maintenant la question poétique et d'écouter Césaire dans cette archive de RFI, un portrait disponible en deux CD où il parle de l'écriture de son premier grand texte publié en 1939, Cahier d'un retour au pays natal, qui sera suivi par un extrait de ce texte lu par Pascal Nzonzi.
Je n'ai commencé à écrire vraiment, je dois dire, avec le cahier de rentrée au pays natal. J'avais écrit des poèmes comme tant d'enfants écrivent des poèmes à l'âge de 15, de 16 ans. Ça n'avait pas de prétention particulière. C'était peut-être plus un jeu qu'autre chose. Et puis, je suis venu en France. J'ai fréquenté le quartier latin, j'ai fréquenté Senghor, et j'ai eu besoin d'écrire. Et je dois dire d'ailleurs que pour écrire, ce qui m'a gêné, c'était précisément l'existence de ces formes classiques, préfabriquées, de ces formes qui nous avaient été inculquées par l'éducation et par l'instruction que nous avions reçue à l'école française. Mais il n'y a pas quelque chose de spécial pour nous. Et alors j'ai eu beaucoup de peine à rompre avec cela, et j'ai écrit aussi quelques poèmes que les gens trouvaient bien, mais très vite je m'en suis trouvé tout à fait insatisfait. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai voulu écrire, j'ai repoussé toutes les formes traditionnelles et je dis, j'écrirai à ma manière, donc je vais écrire en prose. Et c'est comme ça que j'ai écrit « Cahier de retour au pays natal ». C'est pas du tout, je ne suis pas du tout parti avec l'idée que je vais faire un poème. Je vais dire ce que j'ai sous le cœur, je le ferai n'importe comment. Ce sera un cahier, c'est pourquoi il porte ce titre tout à fait scolaire. Et puis on verra bien ce que c'est. Est-ce que c'est de la prose, est-ce que c'est de la poésie, je n'en sais rien. Mais j'avais quelque chose à dire. C'était une manière, par conséquent, de me défaire des formes toutes faites qui représentaient quelque chose de contraignant, de rigide, une sorte de carapace dans laquelle je ne me sentais pas à mon aise. Et rien de tout ça n'est très conscient. En tout cas, c'est un fait que je me suis emparé de mon stylo, je me suis mis à écrire, c'était pas du tout le souci de faire un poème ni de faire de la poésie.
Partir. Mon cœur bruissait de générosité emphatique. Partir. J'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien. Et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair. J'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai « Embrassez-moi, sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. » Et je lui dirai encore « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un proscenium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et voici que je suis venu.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission spéciale qui, à l'heure des 20 ans de la loi qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et à l'occasion du 10e anniversaire de son entrée au Panthéon, se souvient d'Aimé Césaire. Et nous sommes toujours en compagnie de la journaliste Marie-Josée Ali qui a rassemblé les entretiens avec lui dans un livre qui vient de paraître aux éditions Hervé Chopin, un recueil qui court de 1983 à 2007. Est-ce que pendant ces 25 années presque, vous l'avez vu beaucoup changer, Aimé Césaire ?
Je l'ai vu vieillir parce que c'était important pour lui, il supportait pas. Il supportait pas que son corps l'abandonne parce que il dit mais ah, c'est vraiment un naufrage. Je perds mes yeux, je perds mes oreilles, j'ai des douleurs, j'ai dit ah, c'est en fait il trouve c'est emmerdant parce qu'il avait il aimait bien ce terme-là, c'est très emmerdant. Donc mais alors changer sur le fond, mais pas d'un iota. Hein. Non pas seulement sur ses idées politiques, parce que ses idées politiques, c'était « je suis, je ressens le peuple, je le sens, je le sens, je lui parle, je le vois tous les jours, et je n'irai que là où il veut que j'aille. Je n'irai pas là où il veut pas que j'aille. J'irai, parce que bon, les questions qui se posaient politiquement dans cette partie du monde, c'était indépendance, autonomie, ou,
émancipation,
c'était son, ouais. Le terme qui lui permettait de donner de la consistance à ses idées. Son idée, c'était de sortir le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais, le Réunionnais d'une forme de domination, culturelle. Dans lesquels on s'est enfoncé après des siècles et des siècles. Bon, donc c'était ça le plus important pour lui. Après, ce que le peuple souhaitait sur le plan politique, il n'en était pas sûr. Il voulait l'accompagner. Il disait l'indépendance, ça s'arrache. Ça veut dire que si vous voulez l'indépendance, il y aura du sang. Il y aura du sang sur les murs. Il y aura du sang dans les familles. Est-ce que vous voulez ça ? Est-ce que donc il était toujours comme un professeur qui interroge ses élèves pour savoir bon jusqu'où ils sont capables d'aller. À la limite. Je pense que c'était des questions pour lui qui n'avaient pas grande importance. Ce qui était important pour lui, hein, c'est-à-dire s'il avait son avis à donner, je pense, il me l'a donné à sa manière, c'était de dire, moi je suis un émancipationniste, c'est-à-dire l'émancipation de l'homme, c'est-à-dire que l'être humain retrouve sa dignité et sa liberté de penser et de dire ce qu'il est. C'était ça le plus important à une époque où, en Martinique, on était, comme ailleurs, on était terriblement, on surveillait les enfants qui naissaient, on regardait, plus ils étaient blancs, mieux c'était, quoi. Parce que on se disait, avec l'enfant de plus en plus blanc, il aura de moins en moins de mal à vivre sa vie, alors que lui, profondément africaniste, profondément... Le surréalisme lui avait permis d'aller au fond de lui-même, c'est ce qu'il disait. Le surréalisme, c'est un truc merveilleux, c'est la psychanalyse, c'est rentrer au fond de soi. Plus je rentrais, je descendais au fond de moi, posant les questions essentielles avec Senghor et tout. Et qu'est-ce que j'ai trouvé tout au fond? J'ai trouvé le nègre fondamental. Et à partir de là, il nous a donné cette fierté d'être noir. Cette fierté d'appartenir à d'être une partie de la diaspora de ce continent, du continent africain. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça ne l'a jamais quitté. Donc, sur le plan politique, non. Sur le plan de ses idées, quand on regarde l'évolution de sa poésie, enfin, bon, je suis pas une spécialiste de, je sais pas décortiquer la poésie. Mais il y a toujours chez lui, toujours, et il y a toujours eu cette violence du verbe poésie, théâtre, même les discours politiques, et puis la tendresse du geste. Cet homme, si on ne le connaissait pas de visu, on ne pouvait pas savoir qui il était, parce qu'il y avait la tendresse du geste. Il avait vraiment quelque chose de très... ce que Taubira appelle à la fois la colère et l'apaisement. Oui, la colère dans la plume, mais jamais dominée par la colère dans l'exercice de son quotidien. Il avait une tendresse du geste vis-à-vis des autres, vis-à-vis des uns et des autres. Il a reçu tout le monde... tout le monde venait le voir. Tous les élus, tous les présidents de la République sont passés dans son bureau. Il a refusé à un moment de recevoir Sarkozy parce qu'on était en train d'essayer de faire passer une loi à l'Assemblée pour parler des bienfaits de la colonisation. Bon, ça c'était totalement normal, mais une fois que ça a été réglé et que la loi n'a plus été d'actualité, il a accueilli Sarkozy comme tout le monde.
Et il lui a offert son livre « Discours sur le colonialisme ».
Voilà, en disant...
C'est dire s'il était facétieux, en effet.
En disant « Vous savez ce que je lui ai donné ?» Je lui ai donné le discours sur le colonialisme parce qu'il était comme ça, facétieux.
Et en même temps, on entend bien avec vous, Marie-Josée Ali, que c'est un homme qui est resté fidèle à ses convictions, loyal, qui s'est beaucoup investi comme homme politique. Encore une fois, 56 ans à la mairie de Fort-de-France où il accueillait tout le monde, il allait sur le terrain. Est-ce que parfois, il vous a glissé entre les lignes son regret que peut-être cet engagement politique avait été au détriment de sa carrière d'écrivain?
Bah, il m'a dit que ça l'avait empêché d'être un songe creux. Voilà, ça veut dire qu'il avait de la matière pour pouvoir dire tout ce qu'il avait à dire, puisqu'il fallait qu'il dise et qu'il écrive. Je pense pas qu'il... ses enfants, son entourage pensent qu'il aurait pu écrire beaucoup plus. C'est évident. Et c'est évident aussi qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas suffisamment de temps à lui, parce qu'il y avait beaucoup de temps qui était consacré aux autres, mais tout le temps.
Et est-ce que au long de ces nombreux entretiens, il vous a confié off, comme on dit dans le jargon journalistique, quelques secrets, ce qu'on ne peut pas dire quand le micro est ouvert, quand la caméra tourne, mais qu'on peut dire à une amie, parce que vous étiez devenue presque une amie pour Aimé Césaire?
Oui, je crois qu'on était amis. Non, je pense que ce qu'il m'a confié est de l'ordre du privé. Et j'en parlerai jamais, simplement, parce que ce qu'il m'a confié, c'est vraiment de l'ordre du privé. C'est sa famille, son épouse, dont il avait divorcé et qui était morte, ses enfants. Et donc ça, j'en parlerai pas. Mais sur le reste, il avait une franchise qui était une fraîcheur, qui était, c'est pas du tout, il avait pas de valise, de petite mallette avec des phrases toutes faites, avec des idées toutes faites. Non, c'était toujours frais, c'était toujours neuf, c'était toujours sincère. Il y avait toujours un jaillissement d'authenticité. Et puis, il faut pas oublier que c'était d'abord aussi un professeur de littérature, un professeur de français. Donc, il aimait enseigner. Donc, il aimait dire les choses pour qu'on les comprenne. Donc il disait les choses pour qu'on les comprenne et il avait dans ça une sincérité permanente. Je crois que c'était ça qui le caractérisait.
Et toujours est-il qu'après 25 ans, vous avez fini en effet par l'amadouer, comme en témoigne cet extrait d'un de vos derniers entretiens qui commence par le bruit d'une bise, celle que Césaire vous fait sur la joue, Marie-Josée Ali. On écoute.
Voilà. Le temps qui passe.
Oui.
Est-ce qu'il vous fait mal? Est-ce que vous en avez marre?
Non. Nous vivons un siècle. Un siècle de douleur, donc de nostalgie, en même temps de confiance et d'espérance.
Et qu'en est-il aujourd'hui de la postérité de Césaire en Martinique? Est-ce que le retour, la tragédie du roi Christophe ou ses autres textes sont toujours célébrés?
Oui, franchement, il y a eu une sorte d'engouement césarien après sa disparition, qui fait bon, il y a des rues, il y a des phrases de lui qui traînent comme ça dans la ville, il y a un aéroport qui porte son nom, il y a toute cette espèce de célébration qui a toujours accompagné la passion pour Césaire. Donc il y a la ville de Fort-de-France qui est toujours dans le parti PPM, il y a tout ça. Après, si vous me dites, est-ce que Césaire, s'il ouvrait les yeux sur la Martinique d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait content? Est-ce qu'il se dirait, j'ai planté des arbres qui ont bien poussé? Je dirais que je suis pas sûre. Je dirais que je suis pas sûre. C'est comme va le monde. Et c'est pour ça que ça me paraissait important d'écrire ce livre, parce que je suis romancière, je suis pas du tout, je fais pas d'essais, je fais pas des choses comme ça. Mais ça me paraissait important d'écrire ce livre pour rappeler simplement sa parole. Parce que c'est bien de l'honorer et puis de le trouver merveilleux et de le mettre et de l'encenser à tous les coins de rue. Mais c'est aussi bien de se souvenir de ce qu'il était, un homme qui avait des saines colères, mais qui se laissait jamais enfermer dans les colères. Or, aujourd'hui, aux Antilles, on s'enferme dans les colères. Donc on est à des années-lumière de ce que Césaire a essayé de montrer tout au long de sa vie.
Cela dit, au-delà des frontières, il a sans doute inspiré une nouvelle génération par son combat, par sa poésie, comme ces deux jeunes garçons qui ont slamé lors de la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage le 10 mai dernier. On va les écouter dans un instant avec un extrait de leur performance pour boucler cette émission spéciale anniversaire de la loi dite Taubira qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité promulguée il y a 20 ans jour pour jour et que nous avons évoqué à la lumière de ce grand Aimé Césaire que vous nous faites revivre Marie-Josée Ali dans ce recueil que vous avez publié aux éditions Hervé Chopin sous le titre Entretien avec Césaire. Merci encore.
C'est un combat de sueur et de sang. D'aléas qui viennent et qui vont, une danse sans fin mêlée de guenilles, de cris et de chagrins, de pleurs, de douleurs et d'espoirs vains. Une danse où chaque faux pas est une brûlure, chaque faux geste une morsure, où chaque parole est un poison et chaque accord un hurlement. Tu es un oiseau à qui on aurait mis du plomb dans l'aile, qui n'arrive pas à démêler le faux du réel. Entre tous les mensonges, il y a de quoi être perdu. À présent, les portes sont fermées, il n'y a plus d'issue.
C'est un travail de jour et de nuit, sans aucun droit, sans aucun salaire, sans habit et encore moins de lit. Mais ta misère va plus loin que ces simples vers, car ton fardeau est aussi lourd que les chaînes à tes pieds. Des pieds à la tête, épiés par des vautours, au pied de ce mur que tu ne dois pas dépasser.
Ton corps noir n'est que cicatrice blanche, et ta vie n'est qu'obstacle et branche. Tu ne peux pas fuir ton destin, et aller contre le courant ne sert à rien.
Tu peux te déchaîner, tu resteras enchaîné. Tu peux courir, courir, autant que tu veux, autant que tu peux. Les rayons du soleil te rattraperont, et tu peux courir, courir plus vite que le vent. Les inarrêtables aiguilles du temps continueront à tourner à chaque instant.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
La marche du monde.